Bonjour à vous tous, il est bien le troisième jeudi du mois, il est midi, donc nous nous retrouvons, amis du Grémos et ceux qui ne le connaissent pas. Je rappelle bien, Grémos, ça n'a rien de mystérieux comme initial, c'est le groupe de recherche sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder un rendez-vous prochain qui aura lieu le 19 janvier 2018, l'année prochaine, à propos des 5e rencontres d'histoire ouvrière. Et avec nous, Lionel, qui est à la technique, et
Jean-Paul Bentière.
Et Maurice Bedouin.
Voilà.
Alors, j'ai parlé de 5e rencontre. Ça veut dire, Jean-Paul, que nous sommes riches d'une histoire, même au Grémos. Alors, quelles ont été ces autres rencontres qui ont précédé ?
Alors, on va en faire brièvement le tour. On a commencé en 2013 avec une rencontre qui portait sur le thème de la crise et des mobilisations face à la crise dans les vieilles régions industrielles. Évidemment, en particulier sur la nôtre. Et dès cette première rencontre, nous avions fait appel à la fois à des chercheurs et à des témoins locaux, et puis à des chercheurs venus de l'extérieur.
Et à cette époque, nous parlions seulement de journées d'études.
Nous parlions de journées d'études, voilà. Et puis, alors, en 2014, il y a eu une deuxième rencontre qui était un petit peu particulière, qui avait été précédée d'un travail que tu avais mené avec Jean-Michel Stenner, et je te propose d'en parler un petit peu.
Oui, alors, il nous avait semblé que l'histoire s'écrivait aussi, pas seulement au Grémos, mais parmi les associations du patrimoine de la région stéphanoise, de Loire-Sud. Elles sont très nombreuses, ces institutions, quand on veut bien y prêter attention, peut-être plus d'une vingtaine. Et nous étions proposés d'en savoir un peu plus sur quels étaient leurs objectifs, comment elles fonctionnaient, quels étaient leurs soucis, quels étaient les points sur lesquels il y avait débat. Et pour cela, nous avions pensé qu'il était nécessaire d'établir un questionnaire. Et avec Jean-Michel, nous avions pris notre bâton de pèlerin, nous étions partis dans ces différentes associations. Et nous avons eu un immense plaisir de voir combien on avait des personnes qui étaient investies, qui croyaient en leur travail. Le résultat était fort intéressant. Il nous a permis de dresser un bilan. Et c'est au cours de ces deuxième journées de rencontres que nous l'avons tiré. Ce qui est fort intéressant, c'est que elles n'ont pas été clos le soir, puisque nous avions annoncé qu'il y aurait une suite. Il y a eu en fait deux prolongements. Le premier prolongement a été une journée de formation qui a été proposée par Madame Bidou aux archives départementales de la Loire avec Cyril Longin pour discuter avec les volontaires, les personnes des différentes associations, de la manière de prendre en compte l'archive, qu'elle soit l'archive écrite essentiellement, mais aussi l'archive orale. Le deuxième prolongement, eh bien, il a un peu échappé au Grémos, et c'est très bien ainsi, puisqu'il s'est formé un collectif précisément de 25 associations. Ce collectif s'appelle « Lieux et mémoires de nos vallées » et il a pu, à travers différentes réunions, fédérer les efforts de tout le monde et traduire et donner à voir et donner à entendre ce qui se fait dans ces associations par un site commun qui est sur Internet.
D'accord. Alors, on passe à, en 2015, et la troisième rencontre avait porté sur l'immigration et l'évolution des engagements, on va dire, soit des travailleurs immigrés et des militants d'immigration. On avait noté un passage des usines au quartier. Cette année-là, nous avions fait également une soirée musicale et nous avions fait appel à des témoins. Eh bien, appel à des témoins, nous allons le refaire cette année. Donc, début 2017, j'en viens à l'année dernière, enfin, au début de cette année, nous étions passés de l'automne à l'hiver. Les quatrièmes rencontres ont porté sur le thème « Travail et mouvement ouvrier » à l'épreuve de la Grande Guerre, le bassin stéphanois de 1910 à 1925. Et cette journée de rencontre aura elle aussi un prolongement, puisque nous sommes en train de peaufiner une édition des actes de cette rencontre grâce à une subvention du comité du centenaire de la Première Guerre mondiale.
De la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Oui, cette édition-là est attendue. Je crois qu'elle sera dans le panorama de l'histoire stéphanoise un moment important. Car si on y prête bien attention, il n'y a jamais eu d'études d'ampleur sur Saint-Étienne et la Première Guerre mondiale.
D'accord. D'accord.
Voilà, alors ça, c'était le passé, Jean-Paul. Oui. Alors, on est là toujours pour parler du présent et de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer en janvier, le 19 janvier 2018 ?
D'accord. Eh bien alors, la journée portera sur le thème « Monde ouvrier et religion au XXe siècle ». Alors, on a parlé de la date, on n'a pas parlé du lieu. C'est sur le site Tréfilerie de l'université. Et je rappelle la date, le 19 janvier.
Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, il faut dire que les quatrièmes rencontres avaient eu lieu à la Bourse du Travail.
Oui.
Il est évident que la Bourse du Travail est un lieu un petit peu emblématique pour ces rencontres du monde ouvrier. Mais nous revenons à notre point de départ et puis donc bien le montrer, bien le signaler. Ouais. Nous serons cette année, l'année prochaine donc, nous serons à l'amphithéâtre de la faculté de Saint-Étienne de 8h30 à 17h30. Alors Jean-Paul, pourquoi avoir choisi ce thème ?
Alors, on va rappeler qui est à l'origine de ce thème-là. C'est sur une proposition qu'avait faite Serge Proust et que ce thème a été choisi. Dans sa tête, il s'agissait de se rapprocher de maintenant, de la période actuelle, pour essayer de toucher un petit peu plus de monde. Ceci dit, le public de l'année dernière avait été un public assez nombreux, mais il y avait cette préoccupation. La deuxième raison du choix de ce thème, c'est que dans l'année, il y a eu des dépôts d'archives intéressantes concernant ce sujet. Il y a eu le dépôt des archives d'André Garnier, dont on reparlera tout à l'heure parce que ça a été un militant de la JOC, de la CFDT, puis un militant politique. Et puis, justement, puisque je parlais de la JOC, le versement des archives de la JOC aux archives départementales. Donc ça faisait du grain à moudre intéressant. C'est un thème, d'autre part, que nous n'avions pas abordé et sur lequel certains d'entre nous avaient travaillé dans leurs recherches. Toi, pour ton livre sur la grève de 1947...
Puis 48.
48, pardon. Oui, 47-48. Antoine, dans la préparation de sa thèse, et moi aussi dans ma thèse et puis le livre qui vient d'être édité sur l'UD-CFDT-CFTC de la loi. On peut rajouter aussi que ce thème a une actualité également avec les questions touchant à la question de l'exercice du culte ou le port des insignes religieux dans les entreprises, dans les écoles, voilà. Voilà en gros ce qui nous a conduit à choisir ce thème et qui nous semble très intéressant d'étudier.
Sans oublier toutes les questions qui se posent autour de l'islam et du monde ouvrier qu'on va intégrer dans cette journée.
Oui.
Alors, très bien Jean-Paul, on voit bien les raisons qui nous ont poussés à aborder ce sujet. Et puis tout au long des mois, eh bien, l'équipe du Grémo s'est attachée à définir la problématique de cette journée. Alors est-ce que tu peux nous partager le point sur cette problématique ?
Alors je vais essayer de le faire en quelques mots. Donc d'abord, c'est, je crois que s'intéresser à cette question, c'est d'abord s'intéresser aux influences réciproques des églises et du monde ouvrier au XXe siècle. Alors, quand on parle des églises, on parle des catholiques et des protestants ici, et c'est quand même l'église catholique sur laquelle on sait le plus de choses. Donc, catholiques et protestants ont tenté de reconquérir un monde ouvrier en partie déchristianisé. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, des organisations chrétiennes, donc surtout catholiques, se sont donné cette mission tout en étant souvent étroitement surveillés par l'Église et pour certains d'entre eux, c'est le cas des prêtres ouvriers, arrêtés dans le travail entrepris. Et d'autre part, il y avait un certain nombre d'institutions d'encadrement qui accueillaient les ouvriers et leurs familles, par exemple les patronages, les écoles privées, et puis je m'arrête là. Mais, en fait, même si des syndicats ou des organisations comme la JOC ou la CFTC ont connu à certaines périodes un grand développement, il faut bien voir que ces organisations sont restées minoritaires par rapport au bloc Jeunesse communiste, PCF, CGT. Et plus encore, leur travail dans le monde ouvrier a amené certaines de ces organisations et certains de leurs militants à adopter des positions contraires à celles prônées par les églises et même, pour ce qui concerne la CFDT, à se déconfessionnaliser.
Et oui, c'est le fameux levain dans la pâte. Et à la fin, on ne voit que la pâte.
Si tu veux. Et vraiment, par rapport à ces transformations et à la transformation de ces militants, on peut se poser la question, c'est qu'en est-il résulté en ce qui concerne l'attachement de ces militants à la fois à leur église et puis à la foi. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que si on regarde le monde ouvrier à la fin du XXe siècle, eh ben cette tentative semble avoir échoué, globalement. Parce que le monde ouvrier demeurait à la fin du XXe siècle un monde déchristianisé, et certains auteurs se demandaient même où étaient les chrétiens.
Alors, on n'a pas trop parlé de l'islam, là. Alors, et comment on y rentre dans cette problématique de l'islam ?
Alors, si on n'a pas trop parlé de l'islam, c'est que pour le moment, les sources et les études sur les rapports entre l'islam et le monde ouvrier sont moins importantes. Alors, nous en parlerons dans la journée. D'abord parce que c'est important, parce que le monde ouvrier comprend une part de plus en plus grande d'ouvriers musulmans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on va l'étudier par un petit biais. D'une part, la question, un témoignage d'Alvoua Baka, on en reparlera tout à l'heure, sur le poids de la religion chez les ouvriers kabyles de la région stéphanoise. Et le deuxième point par lequel on en parlera, c'est la question des grèves dans l'automobile sur les années, on va dire, 75-80 et 80-85. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, on a des usines automobiles où la part des ouvriers d'origine, on va dire, arabe, entre guillemets, on ne peut pas savoir s'ils sont musulmans, mais où la part des ouvriers arabes est importante, et un certain nombre d'hommes politiques et de journalistes et de directeurs de ressources humaines ont dit que l'islam avait joué un rôle dans ces luttes. Et on va faire venir ici l'historien et sociologue Vincent Gay, qui a étudié ces grèves, qui a étudié cette question et qui s'inscrit en faux contre cette thèse. Et puis, va intervenir également sur cette question Abdelkader Belbari, qui, tout en se disant d'accord avec Vincent Gay, dit néanmoins que pour lui, c'est l'apparition d'un islam politique en France. Alors voilà, on aura ce biais-là, mais je pense que ce biais sera intéressant.
Alors, on connaît le titre du film, on connaît un peu mieux de quoi il parle, mais maintenant, il faut qu'on mette nos auditeurs dans le contenu de la journée et qu'on cite les intervenants et qu'on sache précisément ce qui va être abordé. Alors, comment cette journée est-elle organisée? Est-ce qu'elle est organisée de façon thématique? Est-ce qu'elle est, en revanche, organisée de façon chronologique, puisque sur le XXe siècle, on voit des évolutions très claires se dessiner?
Alors, on va dire les deux. Parce que, d'une part, nous avons prévu que les interventions des églises et le monde ouvrier, on y travaillerait sur la matinée et sur le début de l'après-midi, et que la question de l'islam et du monde ouvrier, nous y travaillerions dans la deuxième partie de l'après-midi. Voilà. Donc, mais ceci dit, à l'intérieur de l'étude des rapports entre le monde ouvrier et les chrétiens, on a essayé de suivre la chronologie, mais pas tout à fait, parce que il y a les problèmes des horaires, c'est un peu compliqué. Mais il y a bien un peu des deux, du thématique et du chronologique.
Alors, les intervenants, par habitude, on a toujours choisi au Grémos, lors de ces rencontres, de dire que on devait faire appel aux chercheurs locaux, sauf que, en la matière, sur cette thématique, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons aussi des références de niveau national qui sont indispensables. Et encore fallait-il que ces personnes-là acceptent de venir.
D'accord. Eh bien, justement, je voudrais commencer par parler de la présidente de cette journée, qui est Michèle Zancarini-Fournel. Michèle Zancarini-Fournel,
c'est une régionale de l'étape, celle-ci.
C'est une régionale.
Très bien.
Elle, c'est même une native de Saint-Étienne.
Ah, mais oui.
Et on peut même rajouter qu'elle appartient au Grémos. Bon, c'est une historienne très connue, Michèle Zancarini-Fournel. C'est une spécialiste de l'histoire des femmes, de l'histoire ouvrière, de l'histoire de mai 1968. Et je vais dire qu'on a été absolument très contents quand elle nous a dit qu'elle était d'accord pour présider cette journée.
Oui.
Ça veut dire que en début de journée, elle va situer cette question et parler des questionnements qui ont déjà été posés par les historiens sur la question. Elle interviendra dans la journée et puis elle tirera les premières conclusions de cette journée en fin de la journée.
Remarquable choix, parce que Michèle Zancarini-Fournel est bien celle qui a le renom national pour introduire cette journée et lui donner du sens.
Il n'y a pas de doute sur cette question. Alors la première intervenante, alors après, je crois que je vais plutôt essayer de me situer dans l'ordre des interventions et je dirais, alors la première intervenante est quelqu'un qui s'appelle Michèle Roux. Michèle Roux est conservatrice des archives d'Ivry-sur-Seine et elle s'est spécialisée dans l'histoire des communautés de femmes chrétiennes et laïques en milieu ouvrier. Alors, en gros, elle va nous parler des femmes qui ont choisi, comme les prêtres ouvriers, de tenter de rapprocher l'Église du monde ouvrier en allant vivre la condition ouvrière. Et parmi ces femmes, elle évoquera plus particulièrement le parcours de Colette Crépin-Leblond, qui s'est établie à Saint-Étienne et sa région en 1952.
Oui, je crois que le choix est fort intéressant, parce que quand on parle de ces questions-là, on ne parle que des hommes.
Oui.
Or, le monde des religieuses était extrêmement présent, des religieuses en monde ouvrier étaient extrêmement présentes, et c'était évident que commencer la journée avec elle était quelque chose de tout à fait important.
Accroche à ton cœur un morceau.
Le Chiffon Rouge, musique et paroles de Maurice Vidalin. C'est une chanson qui a été créée en 1977, qui a été popularisée par Michel Fugain.
D'accord.
Et qui, lorsqu'on fait attention à ses paroles, est en définitive une manière moderne, 1977, de recréer la chanson de l'International. Le chiffon rouge, c'est pas le drapeau rouge, c'est le chiffon rouge. Et on retrouve toute la sémiologie des combats. Car cette chanson a été celle qui a été en premier chantée lors des luttes des mineurs lorrains, puis ensuite des travailleurs de la ligne SNCF Dieppe-Newhaven, puis ensuite par tous ceux de la métallurgie qui se battaient en 1979 en Lorraine. Mmh. Et il faut savoir que cette chanson est restée pendant très longtemps, je crois que ça n'est plus le cas, d'indicatif à la radio libre CGT, Lorraine Cœur d'Acier. Voilà. Et alors, c'est pas étonnant que cette chanson, qui n'a pas foncièrement les références au communisme international, soit reprise dans tous les rassemblements de l'ACO et de la JOC. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui reste à ces gens pour manifester leur volonté de combat et d'opposition, si ce n'est de reprendre ces chants qui sont connus et que tout le monde a au bord des lèvres, tout en sachant, tu le rappelais tout à l'heure, Jean-Paul, que la hiérarchie catholique a toujours montré beaucoup de réserves vis-à-vis toute alliance avec le communisme et, et avec la CGT. Mais enfin, encore que, on en reparlera tout à l'heure.
D'accord. Alors, comme, en fait, ce chant, tu viens de parler de l'ACO à propos de ce chant, eh bien, je te propose maintenant de parler de l'intervention d'Alban Graziotin. Parce que notre ami Alban Graziotin, dont les auditeurs de d'autres émissions se souviennent certainement, avait commencé à préparer une thèse sur les ouvriers stéphanois dans les années 1960-1980. Cette thèse, il a dû l'interrompre pour gagner sa vie comme enseignant dans le secondaire. Et là, il interviendra dans la journée, et c'est, pour moi, ça me fait aussi beaucoup plaisir, il interviendra dans la journée pour nous parler de l'action, d'un groupe de l'action catholique ouvrière, dans les conflits du travail et la crise du bassin stéphanois dans les années 1970-1980. Et je rajoute un mot sur ce groupe, c'est que ce groupe était coordonné par Michel Bouteille, dont on va parler un petit peu plus tard. Bien. Et puis, puisqu'on en est là, eh ben, je vais te donner la parole à toi pour parler de ton intervention, Maurice.
Oui, alors cette intervention est intitulée « La mission ouvrière, l'articulation du religieux et du politique durant l'année 1963 ». Alors, un petit peu délicat parce que le terme de mission ouvrière n'est pas connu, mais je crois que pour moi, c'était la manière de fédérer les mouvements d'action catholique que sont la JOC JOCF aussi, l'ACO, les mouvements, les prêtres ouvriers, les religieuses en monde ouvrier, tout cela faisant partie d'un mouvement d'église qui s'appelle la mission ouvrière. Alors, ce monde ouvrier, en 1963, nous essayerons de le découvrir parce qu'il a beaucoup changé. Peu à peu, c'est plus l'ouvrier misérabilisme de la fin de la guerre, pas du tout. C'est un ouvrier qui rentre dans la société de consommation. À Saint-Étienne, c'est un ouvrier qui a le bonheur, quand c'est possible, d'habiter dans les grands ensembles à La Métard, à Solor, à Beaulieu. Et pourquoi l'année 1963? Bien, tout simplement parce qu'il m'a semblé que cette année était particulièrement riche en événements sur lesquels les militants d'église avaient été obligés de prendre position.
Ben, oui.
Alors, j'ai retenu quatre points. La faim, les problèmes de l'ASFAC, l'usine sidérurgique qui se trouve à la Chaix-la-Sierre, qui appartient à Creuse-Loire, Elle n'est véritablement terminée, cette aventure de la SFAC, qu'en 1964, mais disons qu'en 1963, le débat est dans toutes les têtes et les mouvements syndicaux sont là très, très présents sur le sujet. La deuxième thématique que tu connais bien, Jean-Paul, c'est la déconfessionnalisation de la CFTC, où les militants syndicaux et les militants de la CO se sont beaucoup exprimés et ont essayé d'influer de la façon dont j'essaierai de l'expliquer. Et il y a évidemment la grève des mineurs,
bien sûr,
qui a été une des plus grandes grèves des mineurs de la Loire, qui a duré 35 jours. Et ça n'a pas été simple, sauf que c'est la seule grève où il y a eu unanimité de soutien aux grévistes, depuis le petit peuple jusqu'aux ingénieurs de la mine ou jusqu'à l'évêque de l'époque. Et puis le dernier événement, celui-ci est passé souvent inaperçu, mais j'ai beaucoup de plaisir à le ressortir. C'est ce qui s'est passé au moment de la Sainte-Barbe de 1963. Mais bon, je ne vais pas tout raconter, il faut bien que je laisse en suspens l'intérêt des personnes qui viendront.
Ah, je ferai très attention à ce que tu diras de cela.
Et alors, on a déjà bien entamé la matinée, là, Jean-Paul.
On a déjà bien entamé la matinée, et c'est moi qui vais prendre la parole, en fait.
Ah, ouais.
Après cela, pour parler de l'évolution des militants syndicaux de la CFTC. On vient de parler de la déconfessionnalisation. Qu'est-ce qui se passe pour les militants syndicaux de la CFTC? Donc, l'idée, c'est de parler de leur évolution et de se dire que certains d'entre eux vont passer du statut de militant chrétien, entre guillemets, on discutera de ce que c'est qu'un militant chrétien quand même, à un nouveau type de militant qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire des militants syndicaux et politiques. Quand je dis qu'ils n'étaient pas, il y a bien entendu, dans cette évolution, il va y avoir des différences. Il y en a qui vont rester à la CFTC, il y en a qui vont devenir, parmi ceux qui sont proches de la CFTC, qui vont devenir des militants politiques du MRP, Mouvement Républicain Populaire, et puis ceux auxquels on s'intéressera le plus dans cette période, c'est ceux qui franchissent le pas. C'est ceux qui vont passer, qui vont se prononcer pour la déconfessionnalisation de la CFTC. C'est ceux qui vont prendre des positions, ces positions dont je parlais tout à l'heure, qui s'opposent aux positions de l'Église. Alors, il y a celle qui est peut-être la plus manifeste dans l'époque, c'est la question du droit à l'avortement. La question du droit à l'avortement, on peut dire là-dessus que toute l'Église catholique était absolument opposée à ce droit-là. Ces militants y passent. Ces militants la décident, la votent, la soutiennent. Et alors, c'est pour eux qu'on peut se dire, mais quand on fait une chose pareille, quand on s'oppose à son Église, qu'est-ce qui reste de l'attachement à l'Église, qu'est-ce qui reste de l'attachement à la foi? Voilà. Alors, j'essayerai de montrer comment les militants chrétiens interviennent depuis les années 1920. On passera un petit temps avec André Garnier pour voir comment il se positionne, lui, dans les années 1950.
Donc, c'est toi qui fais l'analyse de la pensée d'André Garnier. Hein.
Oh, très rapidement. Oui. Je présente, mais ce sera très rapide. Et puis, mon intervention sera suivie d'une table ronde entre trois de ces militants qui ont été chrétiens et qui ont suivi une évolution dont ils nous parleront.
Alors là, Jean-Paul, c'est tout à fait étonnant. Ça. Tu as réussi à trouver trois personnes qui vont avoir l'envie, l'honnêteté de dire comment ils ont vécu cette confrontation entre leur foi et leur engagement.
Alors, je veux dire que ces trois personnes. Ces trois militants, je les avais rencontrés parmi les, dans mon travail sur ma thèse. Hein. C'est des gens avec qui j'ai déjà eu un ou des entretiens. Alors, ces trois personnes, c'est Roger Millet. Roger Millet, pour aller vite, c'est un prêtre qui a été démis de ses fonctions parce qu'il s'est marié. Il est devenu conducteur de bus et militant CFDT. Maintenant, il est retraité et reste adhérent de la CFDT retraité. Il aura plus de temps pour parler de son parcours, bien entendu. Michel Bouteille a été militant de la JOC, de l'ACO, de la CFDT, puis il est passé à la CGT tout en restant à l'ACO. Et maintenant, il a décidé de ne plus adhérer à une organisation syndicale. André Momin a été membre de la JOC, de l'ACO, du Parti Socialiste. Il a été militant, il a même été secrétaire général de l'UDCFDT dans les années 80, avant de quitter la CFDT pour la FSU, Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, et de Pôle emploi et de Pôle emploi, et il est encore dont il est encore militant. On a donc trois parcours qui ont un point commun, c'est que toutes ces personnes-là ont été chrétiennes et voilà, et trois parcours différents, et je pense que ça peut se révéler très intéressant.
Écoute, Jean-Paul, bravo, on se régale à l'avance parce qu'on va rencontrer l'authenticité d'un témoignage sur une vie, un regard sur une vie.
Oui, je pense.
Mais nous allons avoir avec nous aussi François Maguin, et j'ai comme l'impression que ce que François Maguin va nous dire, c'est un petit peu la même chose, c'est comment autour de lui et lui s'est engagé autour du monde associatif.
Alors, c'est un peu la même chose, mais moi, c'est à partir de syndicalistes. François Maguin, donc François Maguin, ancien directeur de Centre Social et membre du Grémos, a intitulé son intervention « Enjeux de territoire et transformation du militantisme catholique, le quartier de Solor ». Alors, dans cette intervention, il va raconter comment des militants catholiques ont pénétré le quartier de Solor, qui était un quartier à dominante communiste, par le biais d'une intervention sociale. Alors, ils ont évolué sous l'influence du PCF, mais ils ont su aussi promouvoir d'autres formes d'action et construire une animation dans le quartier. Pour continuer, on va passer à ce moment-là à un intervenant venu de l'extérieur. C'est Juliane Michy. Juliane Michy est sociologue. Et lui... Donc, puisqu'on parlait de chronologie, Juliane Michy va nous parler, on va dire, des années 1970-2000. Juliane Michy, normalement, c'est plutôt un spécialiste du parti du PCF, des ouvriers, voilà. Et là, il a été d'accord pour choisir comme titre de son intervention « Les transformations de l'engagement ouvrier et le rôle des valeurs religieuses », donc depuis les années 1970. Et à partir d'une enquête de terrain qu'il a menée dans un bourg rural, en fait, il a étudié des syndicalistes CGT, cheminots. Et il distingue deux étapes. Dans les années 1970-1980, une étape où des enfants de paysans chrétiens rejoignent une CGT qui est dominée par des militants communistes. Et deuxième étape, dans les années 1990-2000, les animateurs de la CGT, les militants en CGT, sont moins liés au PCF. Et leurs valeurs, on va dire, à la fois les valeurs religieuses et les valeurs communistes, s'expriment dans un univers professionnel qui est marqué par la compétition et le renforcement des rapports hiérarchiques.
Tout ce que tu me dis, Jean-Paul, me fait penser au titre de sa thèse qui s'appelle « Servir la classe ouvrière ». Et ce titre-là, ce thème de servir la classe ouvrière, c'est à la fois ce que peut dire un militant CGT ou un militant du Parti communiste dans son entreprise, mais c'est aussi ce que peut dire un militant assez haut ou un prêtre ouvrier. Et c'est bien là la curiosité de cette journée qui fait qu'on se rencontre autour d'objectifs au service de la classe ouvrière.
Tout à fait. J'ai envie de rajouter un militant CFDT qui peut ne pas avoir été à la CO.
Ah oui,
bien sûr. Idir, un chanteur kabyle que j'avais écouté chanter à plusieurs reprises, dont j'avais entendu cette chanson. Et il nous a semblé que cette chanson, ben, ça pouvait être une bonne transition vers la deuxième partie de notre journée. Et deuxième partie de notre journée consacrée au rapport entre l'islam et le mouvement ouvrier, et qui commencera par un témoignage d'Alwa Baka, Alois Bacca est un bien connu à Saint-Étienne. C'est un ancien directeur de centre social. C'est un militant associatif, donc qui apportera un témoignage, mais aussi le résultat d'une recherche bibliographique, nous a-t-il dit, sur le poids du religieux dans la culture des ouvriers kabyles à Saint-Étienne particulièrement.
Alors, je trouve que ce titre est fort intéressant. Et il me tient en haleine, parce que s'agit-il de religion ou s'agit-il de culture ?
Eh bien, question. Voilà, nous en... Alois Bacca nous dira cela. Alois Bacca sera donc... l'intervention d'Alois Bacca sera suivie de celle de Vincent Guay. On en a parlé tout à l'heure, Vincent Guay est maître de conférences en sociologie à Paris 7. Il interviendra sur un thème dont le titre est un petit peu compliqué, mais c'est lui qui nous l'a donné, alors je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. Ça s'appelle « Les enjeux sociaux et politiques liés à la question de l'islam ouvrier et les évolutions des lectures du monde social et de la classe ouvrière dans l'industrie automobile, années 1970, milieu des années 80 ». Alors, deux choses là-dessus. Les grèves dans l'industrie automobile à cette période sont les dernières grandes grèves dans ce qu'on peut rajouter à la période de l'insubordination ouvrière que Xavier Vignat avait développée et dont il dit que cette période s'achève en gros autour de 78, mis à part ces grèves dans l'industrie automobile. Et ces grèves dans l'industrie automobile, qui sont des grèves dans la région parisienne, touchent des entreprises où il y avait une grande partie du personnel qui était un personnel d'origine immigrée et en particulier d'origine nord-africaine. Bien, et il y a eu des grèves très importantes, grèves où la maîtrise des syndicats jaunes dans ces entreprises a été battue en brèche par les syndicats, CGT surtout, et CFDT. Et donc, un certain nombre d'hommes politiques, et par là, de dirigeants politiques de la gauche au gouvernement dans les années 80, et des journalistes ont dit que c'était l'islam qui avait été un facteur de la lutte dans ces grèves-là. Vincent Guay, lui, a fait une enquête sur cette question et s'inscrit en faux contre cette interprétation. Et je pense que ça sera une intervention intéressante qui sera suivie...
Alors attends, sur cette intervention, je crois qu'il faut bien dire à tous ceux qui nous écoutent que nous laisserons largement la parole au public et que forcément, sur cette question-là, à Saint-Étienne, il y a certaines personnes qui auront quelque chose à dire. Comment ça s'est passé dans les grandes usines stéphanoises? Est-ce qu'il y a eu des mouvements? Est-ce que ces mouvements ont été à l'initiative des Nord-Africains, des Maghrébins? Et est-ce qu'on peut y voir un élément religieux qui a joué?
C'est une question qu'on s'était déjà posée justement avec Alban Graziotin. Et il y a deux ans, on avait parlé d'une grève dans une usine où les personnes d'origine nord-africaine étaient majoritaires, qui étaient les aciéries du Furon. La question est très difficile. On n'avait pas pu répondre à la question de est-ce que ces personnes-là étaient majoritaires dans la grève, est-ce que c'est elles qui l'avaient lancée? C'est plus compliqué que ça.
Cette articulation du religieux et du politique est au cœur de notre journée et elle est au cœur de cette question des ouvriers maghrébins.
Alors, c'est ce que tu dis m'amène à dire que c'est Abdelkader Belbari qui prendra la parole à la suite de Vincent Guay. Et dans les discussions que j'ai eues avec Abdelkader Belbari pour savoir comment ce qu'il nous présenterait à ce moment-là, il me semble que Abdelkader Belbari est d'accord avec l'interprétation de Vincent Guay, mais mais qu'en même temps, il voudrait dire dans son témoignage que ces grèves sont en même temps un signe de l'apparition d'un islam politique en France. Et donc, alors, c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc, bien entendu, comme d'habitude, aussi bien l'après-midi que le matin, on aura un temps de retour sur les différentes interventions. Donc, on pourra effectivement rediscuter et peut-être apporter un contrepoint stéphanois à ce que pourra dire Vincent Gay. Voilà. Eh bien, je sais pas, Maurice, eh ben, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la journée?
Redire le lieu, les horaires, comment on s'y rend, qu'est-ce qui est prévu pour le repas. Ça, nos auditeurs attendent, hein, parce que il faut pas se trouver dans l'inconfort là.
Donc, le lieu, c'est le site Tréfilerie à la fac. Il y a un amphi. C'est dans un amphi. Peut-être tu peux le trouver dans tes papiers. Pour quand on vient de la gare, on a la ligne de tram de Bellevue qui s'arrête devant le site Tréfilerie de la fac. On pourra manger à midi sur le site de la fac, sur le site Tréfilerie, ou je dis une bêtise. Tu ne sais pas. Tu m'as posé la question. J'ai pas de réponse.
Non, chacun mange par soi-même.
Bien, d'accord, on dira. On verra ça à ce moment-là. Et de toute façon, il y aura une introduction à la journée pour placer toutes...
Pour retrouver toutes ces informations, on peut aller sur le site du REMOS. Et puis, pour en savoir davantage... Eh bien, il y aura une diffusion importante de flyers et d'affiches. Et puis, c'est le bouche-à-oreille, en l'occurrence, qui va beaucoup fonctionner. Et puis, les messages Internet.
Voilà.
Voilà, ben, nous serons contents de vous accueillir. Espérons que l'amphi qui contient 150 personnes sera assez grand. Et puis, Jean-Paul, peut-être un coup d'œil sur... l'agenda culturel du monde ouvrier, du monde des travailleurs. Alors, qu'est-ce que... C'est la trêve des confiseurs, évidemment, oui. Noël le jour de l'an. Mais on redémarre au mois de janvier avec ton intervention.
Alors, au mois de janvier, je vais effectivement faire un certain nombre de présentations de mon livre sur l'UD, CFTC, CFDT. Donc... Le mercredi 17 janvier 2018, à la librairie L'une et l'autre à Saint-Étienne, donc c'est 19 rue Pierre Bérard, à partir de 19h. Le vendredi 2 février 2018, à la Cinémathèque de Saint-Étienne, donc c'est 24 rue Jogoudbarge. Dans cette présentation sera accompagnée par la présentation du film qui s'appelle d'un film sur la CFDT, histoire d'une naissance, qui était déjà passé à Saint-Étienne, voilà, mais que le public pourra revoir et pourra revoir deux fois. Il y aura une séance qui commencera à 14h30, suivie d'un débat et suivie d'une interview par Jean-Claude Duverger pour la radio RCF. Et puis, deuxième séance à 19h30, donc dans les deux, suivi d'un débat avec le public. Et puis là, il n'y aura pas d'interview. Voilà. Et puis la troisième présentation, mais c'est une intervention à l'Institut du Travail qui se passera le mercredi 17 février entre 18h et 20h. Cette fois-ci, c'est à l'amphithéâtre E10 du site Tréfilerie. Et pour l'occasion, je parlerai spécifiquement du recentrage de la CFDT. Voilà. Et bien entendu, il y a possibilité de débat sur cette question.
Beau programme. Alors, on souhaite rendez-vous à nos auditeurs, en tout cas le 19. Voilà. Et puis, pour la première émission du Grémo, ce troisième jeudi du mois.
Très bien. Très bien. C'est la fin. Eh bien, au revoir et bonne fête. À l'année prochaine.